من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Nous sommes au hadith numéro 11. Al-hadithu al-hadi ashar. Onzième hadith. Ridallah fi thalath. Wasakhatuhu fi thalath. L'agrément, la satisfaction d'Allah est dans trois choses. Et sa colère, son courroux, sont aussi dans trois choses. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم ومالك وأحمد d'après أبو هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah aime pour vous, agrée pour vous trois choses et il déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer et que vous soyez unis que vous vous cramponniez au câble d'Allah et vous ne vous divisez pas et que vous conseillez ceux qui ont l'autorité sur vous, la responsabilité sur vous. Et il déteste pour vous trois choses. De raconter ce qui se dit. Qila wa qal, il est dit, un tel a dit. Ça veut dire ça, qila wa qal. C'est la façon de dire, c'est ce, de raconter tout ce qu'on entend. Tout ce qui nous parvient. De trop parler. De trop poser de questions. Et de mal dépenser les richesses et les biens. Rapporté par l'imam Muslim, l'imam Malik et l'imam Ahmed. Rawi al-Hadith, le rapporteur du Hadith, le compagnon, huwa Abu Hurayra, al-Dawsi, al-Sahabi, al-Jalil, hafidhu al-Sahaba. Donc c'est celui qu'on appelle, qu'on surnomme Abu Hurayra. De la tribu de Daws, on l'appelle Dawsi, l'honorable compagnon, celui parmi les compagnons qui était connu est célèbre pour sa mémorisation. Il mémorisait tout ce qu'il entendait du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est le compagnon qui a le plus rapporté de hadith, le plus grand nombre de hadith rapportés d'Abu Huraira radiallahu anhu, bien qu'il n'ait été compagnon que pendant 4 ans. Parce qu'il est entré en islam en l'an 7 de l'Hégire. En l'an 7 de l'Hégire, donc pendant près de 4 ans. Mais il ne lâchait jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il était pauvre, il n'avait pas de richesse, il était dans ce qu'on appelle les gens qui faisaient partie de le Soufa. C'était un petit endroit qui leur était réservé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle le Soufa. C'était des pauvres qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas où aller, et donc ils étaient tout le temps dans la mosquée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il était souvent avec eux. Et donc Abu Huraira a beaucoup pris, et puis il a gagné aussi les du'as, les invocations du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète a fait des du'as pour lui ainsi que pour sa mère, qui était aussi convertie à l'islam, la mère d'Abu Huraira, radiallahu anhu, radiallahu anha. اختلف في اسمه. Donc il y a des personnes, là c'est un compagnon, mais même chez les tabi'in, même chez d'autres générations, parfois il y en a qui deviennent célèbres par leur surnom, de sorte que plus tard on ne sait plus comment ils s'appellent réellement. Donc il arrive que lorsqu'on fait une recherche, on est face à des divergences, plusieurs avis. Et concernant Abu Huraira radiallahu anhu, il y a eu beaucoup de paroles là-dessus. Comment il s'appelle réellement? Parce qu'Abu Huraira n'est pas son nom, c'est son surnom. Il est dit que c'est parce qu'il avait toujours sur lui un petit chaton. Huraira est un diminutif de Hir, c'est le chat. Il avait un petit chaton qui était tout en, sur lui, sur son bras. Et donc les autres compagnons l'ont appelé Abu Huraira, le papa, le père du chaton. C'est pour cela que ce surnom est parti dessus. Mais l'avis le plus, inshallah, le plus sûr, c'est ce qu'il va citer Cheikh Rabi, hafizahullah, il dit « Ukhtulifa fi smihi faqila Abdurrahman ibn Sakhr ». C'est l'avis qui est le plus, inshallah, le plus sûr, c'est qu'il s'appelait Abdurrahman ibn Sakhr. « Waqila ibn Ghanam ». « Waqila ghayra dhalik ». Et il a été dit autre chose aussi. وذهب الأكثرون إلى الأول. Et la plupart, c'est-à-dire la plupart des savants, ils ont pris le premier nom, عبد الرحمن بن صخر. مات سنة 59 من الهجرة. Il est mort, رضي الله عنه, en l'an 59 de l'Hégire. معاني المفردات. Vocabulaire, le sens des mots employés dans le hadith. Al-rida wa sakhat, l'agrément, la satisfaction, ça c'est al-rida. Wa sakhat, c'est la colère, le courroux. Sifatan lillahi, ce sont deux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taliqani bi jalalih, comme il convient à sa puissance et à sa grandeur et à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des règles, des règles de base sans trop s'attarder là-dessus dans les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si des fois les mêmes termes, on peut les employer à des créatures, mais toujours lorsque c'est attribué au Seigneur Subhanahu wa ta'ala, ça n'a aucune ressemblance avec ce même mot qui est attribué à la créature. Lorsqu'il est attribué à la créature, il lui est attribué avec tout ce qu'il y a comme négligence, comme manquement, comme diminution, d'accord? Alors que quand c'est attribué au créateur subhanahu wa ta'ala, là c'est comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa grandeur, sa splendeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. لا تشبهان صفات المخلوقين. En rien, elle ne ressemble aux attributs des créatures. Al-ibada, parce qu'il a dit un ta'boudou, que vous l'adoriez. Donc il y a le terme, il est en verbe. C'est le terme ibada, l'adoration. Al-ibada, lughatan, al-khudu' wa al-dhul ma' al-mahabba. C'est de se plier, de se soumettre avec amour. Humilité et amour. وهي اسم امر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. Là le cheikh nous cite la définition qui est célèbre du cheikh al-islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a résumé le terme adoration en nous disant que c'est un ordre général, un mot, un terme général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés, c'est-à-dire extérieurs et internes, les paroles et les actes du cœur et les paroles de la langue et les actes des membres du corps, d'accord, intérieurement et extérieurement. فَكُلُّ ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. Donc tout ce qu'Allah demande ou ordonne, que ce soit d'un point de vue qui en découle une obligation ou il en découle un acte recommandé, alors c'est un acte d'adoration. وصرفه لغيره. Donc dès que ça devient une adoration, وَصَرْفُهُ لِغَيْرِهِ شِرْك. Donc le fait de le détourner à autre que Allah, de le réserver, de l'attribuer à autre que Allah, l'accomplir pour autre que Allah, ça devient du polythéisme. الشرك, parce qu'il a dit أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِشَيْئًا. Donc il y a تُشْرِكُ, le verbe là, le mot c'est الشِرْك. أَنْ يَتَّخِذَ لِلَّهِ نِدًّا فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ. C'est de donner à Allah un égal, un semblable dans une quelconque adoration. بِأَنْ يَصْرِفَ الْعَبْدُ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Lorsque le serviteur attribue une des adorations à autre que Allah, il l'accomplit pour autre que Allah Azza wa Jal. فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ فَصَرْفُهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك. Donc toute croyance, conviction, parole, action, œuvre qu'il est prouvé que c'est une action demandée qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors donner cette action, cette œuvre à autre que lui, la donner que Allah seul subhanahu wa ta'ala, c'est donc du monothéisme, de la foi et de la sincérité. Le donner à autre que lui, ça devient du polythéisme. Donc on voit l'importance, parce que ça c'est le point essentiel. C'est ce qui distingue un musulman d'un non-musulman, d'un croyant, d'un polythéiste, d'un mécréant. L'importance d'apprendre le monothéisme, d'apprendre le tawhid et d'apprendre les différentes œuvres d'adoration qui doivent être réservées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, les réserver à autre que lui, en fait un acte de polythéisme. Et un bel ouvrage, un célèbre ouvrage là-dessus, c'est Kitab al-Tawhid du Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qui comporte plus de 60 chapitres Et il donne beaucoup d'exemples d'actions qui font partie des œuvres qui doivent être réservées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des adorations. Et il donne des exemples d'actions que ce sont du polythéisme. Ça fait ce qu'ils font sortir de l'islam. Donc l'importance d'étudier convenablement, de la meilleure manière, ce livre. Le but d'étudier, ce n'est pas comme certains le comprennent ou le font. Ce n'est pas d'amasser de la connaissance. La connaissance, s'il n'y a rien derrière, elle peut être un argument contre toi. Tu seras face à Allah dans une situation pire que celui qui ignore. Parce que celui qui ignore, il ne savait pas. Toi, tu savais. Donc, l'histoire n'est pas seulement d'amasser. C'est pour cela que des fois, des gens disent « un tel, il mémorise, il connaît ». Mais derrière, dans la pratique, il n'y a rien. Il n'y a pas le but de l'apprentissage même. Et les gens sont éblouis face à la personne. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les bases de leur religion. Vous croyez que Shaitan, c'est un ignorant ? Ça veut dire que si Shaitan il se présente, il y en a beaucoup qui vont aller le suivre. Subhanallah. Et là, le danger des fois, il y en a, il s'arrête. Bien sûr, il faut que celui qui parle, qui enseigne, il sait ce qu'il enseigne et de quoi il parle. La personne, elle enseigne ce qu'elle sait et qu'elle en a les capacités et les moyens. Soit, mais ce n'est pas un tout. Ce n'est pas un tout. Subhanallah. Donc, il y a deux points à regarder. Est-ce que la personne, elle est convenable ou pas ? Est-ce qu'elle est, elle est sur le droit chemin ou pas ? C'est un exemple, je ne sais même pas s'il existe. Mais c'est comme ça, ça me vient. Un juif, il se présente, il mémorise le Coran. Il l'a appris par cœur. Et il dit, je suis prêt à vous l'enseigner. Vous y allez ? Il a le Coran. Il a son diplôme. Comme quoi, il le récite convenablement, selon ses règles. Alors pourquoi quand c'est un innovateur, vous y allez ? Pourquoi vous ne posez pas la même question ? Vous dites, est-ce que j'ai le droit ? J'ai pas le droit. La raison qui m'empêche d'aller chez l'un, est-ce qu'elle m'empêche ou pas d'aller chez l'autre ? Parce que si c'est seulement d'avoir les connaissances, d'avoir les diplômes, elles sont les limites. Si c'était seulement, on devait s'arrêter à ça. Elles sont les limites. Il faut faire attention. Donc, beaucoup de gens disent, un tel il mémorise, un tel il connaît, un tel il connaît. Ça c'est un point. Ce n'est pas la finalité. Donc, là, on parle de Kitab al-Tawhid. Combien de gens mémorisent des volumes et des volumes et des volumes ? Et dans le Tawhid, c'est zéro. Zéro. Le shirk qui se fait devant eux, ils sont incapables de pouvoir distinguer le Tawhid du shirk. Comme un savant, il avait dit, quand il est parti à l'Azhar, c'est Cheikh Hamad al-Ansari. Il a dit aux Égyptiens, vous êtes dans plein de sciences les maîtres du monde. Même pour les Occidentaux. Mais dans le Tawhid, ce n'est pas le cas. La base même. C'est bien beau de parler de sujet. Mais si la base même de la religion n'est pas là, c'est un grave problème. Le Tawhid, comme Mohamed Abdul Wahhab, rahimahullah, il n'a rien ramené de nouveau. Des versets coraniques et des hadiths. Vous les contredisez. Vous faites tout le contraire. Vous allez à votre perte. Il ne s'est pas fait attaquer que par des ignorants, des gens de la masse. Mais non, les gens de la masse ne sont pas venus tout seuls. Ce sont des chouyours qui sont derrière. Des gens qui sont imams, qui sont savants, qui ont écrit des livres, qui ont une place, peut-être dans le pays. C'est les premiers. Hein? Donc, ils l'ont combattu. Et parmi eux, il y en a, ils savent qu'ils disent vrai. Mais les gens, lorsque... il y a une crainte de perdre la place, de perdre le poste. Ils sont prêts à vendre leur religion pour ça. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, un point essentiel, il faut avoir de la connaissance. Il faut apprendre. Mais il faut se poser la question, c'est quoi le but ? Allah tabaraka wa ta'ala a réprimandé deux catégories de gens. L'une, elle a la science, mais elle n'applique pas. Et l'autre, elle applique, mais avec ignorance. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Ni l'un ni l'autre. Et donc le savoir, il doit toujours être accompagné de la pratique. De la pratique. Les gens n'ont pas besoin de parler, hein. On sait. On sait, subhanallah. Quelqu'un n'a pas besoin de se présenter, tu le laisses. Avec qui il va marcher, tu verras très bien avec qui il est. L'être humain, il va vers son semblable. C'est plus fort que lui. Comme disaient les ulama de Salaf, quelqu'un il peut cacher ce qu'il veut. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne pourra pas cacher, c'est sa compagnie. Il ne peut pas. C'est dur de rester avec des gens qui ne te conviennent pas. Hein, c'est dur. Comme on dit, la pièce de théâtre, elle va durer une petite période. Après, c'est bon. C'est pas possible. Voilà. Quelqu'un il rentre dans un village, laissez-le, il va aller vers ses semblables. Allah. Celui qui aime bien aller dans les bars, dès qu'il rentre dans n'importe quelle ville, il va aller vers le bar. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça. Et lui, il connaît, c'est là où il a envie d'aller. Ce sont les gens, la compagnie avec qui il a envie de rester. Celui qui est dans din, il entre, il demande après la mosquée, elle est où? C'est une réalité, subhanallah. Un tabliri rentre dans une ville, il demande si on l'établir. C'est comme ça. Un ikhwani, ça sera la même chose. Quelqu'un de la sunna, il va chercher des gens de la sunna. Subhanallah. C'est comme ça. L'être humain, il va vers ses semblables. Il va vers ses semblables. Subhanallah. Donc ça, c'est important. Taïb. Donc, l'importance du tawhid. Le premier point qu'il a cité, qu'Allah il agrée pour les gens, c'est quoi? C'est qu'on l'adore seul, sans rien lui associer. Ce premier point, c'est un problème qui existera tous les jours. C'est pour cela que le tawhid, on n'en aura jamais terminé avec. Jamais. On rentre dans l'islam avec, on vit avec et on quitte le monde avec le tawhid. Le tawhid, c'est toute ta vie. Tu en auras toujours besoin. Et c'est pour cela que les livres de aqidah, de tawhid, tu as toujours besoin de les relire, de réécouter, tu as besoin du rappel, tu en auras toujours besoin. Et subhanallah, les gens qui ont compris cela sont ceux qui étudient le plus le tawhid. Et les gens qui ne connaissent pas le tawhid sont ceux qui l'étudient le moins, si ce n'est jamais. C'est étonnant. Quelqu'un qui veut regarder la logique, il dira que ceux-là ont plus besoin d'étudier le tawhid que ceux-là. Et bien, dans la réalité, c'est tout le contraire. Tellement que les gens ont compris l'importance du tawhid, et bien qu'ils l'étudient encore plus que ceux qui ne le connaissent pas. Cheikh Mohamed Taqiyeddin El-Hilali, rahimahullah, le grand savant marocain, il faisait Kitab al-Tawhid, il le terminait et il recommençait Kitab al-Tawhid. Il le terminait et il le recommençait. Il restait presque 9 ans à Meknès, il faisait que ça, Kitab al-Tawhid. Il terminait, il le recommençait. Il terminait, il le recommençait. Et avec ça, on sait très bien, dans nos pays, ils en ont vraiment besoin. Les gens, vous voyez les croyances qu'ils ont, les convictions qu'ils ont, les actions qu'ils ont. Partout, des mausolées autour desquels il se passe des choses, les gens ils y vont et ainsi de suite. Les adorations de n'importe qui Allah tabaraka wa ta'ala, les confréries soufis, c'est répandu. Bon, c'est répandu. Donc il y a du travail. Le tawhid, c'est un travail. Et donc, d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Ça, c'est la da'wa de tous les prophètes. Tous les prophètes ont appelé leur peuple à ce point-là essentiel. Il n'y a pas de salat, il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de hajj. Rien ne tient s'il n'y a pas le tawhid.
toutes ces actions qui sont des piliers, des obligations, elles ne sont acceptées que s'il y a le tawhid. Un mécréant, on lui dit fais tes 5 prières par jour, fais le ramadan, donne la zakat, va faire le hajj. Il n'a pas le tawhid. Ces actions, ils sont acceptées? Ils ne sont pas acceptées. Subhanallah. Ils ne sont pas acceptées. Tawhid, c'est la base. Ne nous faites pas avoir par des gens qui parlent au nom de l'islam, qui prennent en otage l'islam. Et l'islam est innocent de cette prise d'otage. Ils le prennent en otage. Ils font croire. C'est soit tu es avec moi, ou soit tu es contre l'islam. Regardez la façon de parler. Ils font peur aux gens de la masse. Et si quelqu'un est contre, non mais un tel il combat l'islam. Non, il combat toi. Toi tu t'es pris pour le porte-parole, le porte-étendard de l'islam. Tu as cru que l'islam en lui-même c'était toi, en ta personne. C'est un problème. Et que dire quand ce sont des innovateurs qui inventent dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a jamais révélé. Subhanahu wa ta'ala. Ils font un parti islamique, ils font croire aux gens, si vous n'êtes pas avec nous, ben ça veut dire que vous êtes avec la mécréance. Vous êtes contre l'islam. Regardez. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous faites un parti islamique? Les autres, ce n'est pas des musulmans. Non, ce sont des musulmans. Mais on a le droit de faire un parti islamique. Et une fois qu'il est fait, ils font croire aux gens d'une manière ou d'une autre que si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre l'islam. Ils font peur aux gens. Alors qu'en réalité, ça se trouve que chez les autres, même s'ils ont des déviances, ils sont encore mieux dans l'islam que ces gens-là. Ils ont une meilleure compréhension de l'islam que ces gens-là qui disent l'islam à tout va. On dirait que ce sont des gens, ils ont peur. Et pour cacher des défauts ou des erreurs, ils mettent l'islam en avant pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Laissez tranquille les gens qui adorent les tombes. Ce n'est pas le gros du problème. Le plus grand chiffre, c'est les palais. C'est comme ça qu'ils disent. Moi, je vous résume. Je vous résume le contenu. La finalité, c'est ça. Il vous dit, c'est pas ça. Le gros du shirk, c'est pas les tombes. Ça, c'est en 2 secondes, c'est réglé. Une fois qu'on est au pouvoir, on enlève tout ça. Ils n'ont jamais l'intention de l'enlever, c'est pas vrai. Eux-mêmes, ils y vont. C'est pas vrai. Bon. Leurs fondateurs, ils allaient dans les tombes. Donc, c'est pas vrai. C'est pour calmer un peu les gens ou les gens qui sont réticents vis-à-vis d'eux. C'est tout. Donc, ils veulent que les gens se focalisent. Ah, d'accord. Le plus grand du shirk, c'est le palais. D'accord. Le gouvernant qui est là-bas. Ah ouais, lui, il gouverne avec des lois autres que celles d'Allah. Donc, c'est ça le plus grand du shirk. Et dès une fois que les gens sont concentrés sur ça, alors que tous les prophètes, quand ils sont venus, regardez, le Coran, il est là. Alhamdoulilah, nous, les sources, elles sont là. Il y en a, ils n'ont plus de source. Ils ont perdu. Il y a des peuples, ils n'en ont plus. Ou ce qu'ils ont, c'est falsifié. Nous, alhamdoulilah, c'est préservé. Le Coran, il est là. Allah l'a préservé. La sunna, elle est là. D'accord? Des grands ulama ont écrit la biographie des prophètes. Allez-y, regardez. Regardez le prêche des prophètes. Regardez Allah quand il a envoyé les prophètes. Regardez le prêche. Subhanallah. Est-ce que les prophètes sont venus pour se concurrencer avec les gouvernants pour prendre leur place? Ça n'existe pas. Et ils commençaient par les gouverner avant même les gouvernants. Les gouverner, les gens de la masse. Et dans les gens de la masse, ceux qui acceptaient le plus facilement, c'était les pauvres et les jeunes en général. C'était comme ça, en général, c'était comme ça que ça se passait avec les peuples des prophètes. Ça n'existe pas. Donc, là, c'est à titre d'exemple que ces genres de prêches n'ont rien à voir. Ils détournent les gens du vrai chemin des prophètes. Jusqu'à même que certains parmi eux vont dire que certains prophètes ont échoué dans leur mission. A'oudhou billah. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ne voient que les résultats. Nous, on est dans le vrai. Pourquoi? Parce qu'on a fait une réunion, on a réuni 200 000 personnes. Donc c'est bien la preuve comme quoi on est dans le vrai. Allah al-Musta'an. Où est-ce que c'est marqué dans la religion que le grand nombre, d'accord, est une garantie d'être sur le vrai ou pas. Où c'est marqué ? C'est plutôt le contraire. Le grand nombre, quand il est cité dans le Coran, c'est pour citer les gens du faux, les gens du mal. Et le petit nombre, quand il est cité, c'est pour parler des gens du bien. Depuis quand ? Allahul Musta'an. Mais je ne sais pas comment ils lisent, hein. Parce que des gens qui suivent ça, ils écoutent ça, ils lisent le Coran. Mais c'est clair que si le Coran, on le prend à l'envers, ça c'est la lecture qu'ils font du Coran, c'est à l'envers. Ils le lisent, mais il n'y a rien de compris dedans. Wal'iyadu billah. Encore pire, lorsqu'on prend les versets coraniques et on essaie de les détourner pour leur donner un sens qui n'est pas le leur, pour légitimer telle ou telle action. Ça, ce sont des choses qui se font. Wal'iyadu billah. Allahul Musta'an. Donc l'importance d'étudier le tawhid. Le tawhid. Parce qu'en étudiant le tawhid, tu apprends à adorer Allah tabaraka wa ta'ala sur une clairvoyance. Tu connais les actes d'adoration, à qui elles doivent être vouées. Elles sont exclusives à qui? Personne en dehors de lui n'a le droit d'en recevoir une quelconque. Et que tous ceux qui donnent des adorations de Allah, ils sont tombés dans le polythéisme. Donc il y a du travail. C'est le travail, la mission des prophètes. De sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et en même temps, ben t'apprends quoi? T'apprends, ben voilà la mission des prophètes. On est censé être derrière les prophètes. Mais ben il y en a beaucoup qui parlent au nom de l'islam. Et ce point-là, essentiel, le premier, ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas derrière les prophètes. Alors c'est soit ils ignorent, ils sont bien intentionnés, mais ils ignorent. Et le remède à cela, c'est quoi? Leur enseigner. Leur enseigner. Ou alors, ils ont trouvé un chemin meilleur que les prophètes, alors qu'ils nous le disent clairement. Ils le disent. On sait, on est au courant, mais nous, ça ne nous intéresse pas, le chemin des prophètes. On veut un autre chemin. Dites-le clairement à tout le monde. Arrêtez de mentir aux gens. Vous avez fait croire que votre chemin, c'était celui des prophètes. Quand on vous a prouvé que ce n'était pas le chemin des prophètes, vous êtes incapable de dire, d'assumer vos responsabilités. Assumez. Dites que nous, en fin de compte, c'est notre conviction, on a le droit de prendre un chemin autre que celui des prophètes. Et vous assumez votre décision. C'est votre problème. Mais ça fait les caméléons. Voilà. Et c'est pour ça que c'est dur pour beaucoup de gens. Mais j'étais avec lui, je lui ai parlé, il m'a dit que non, lui suit le Coran et la Sunna, beaucoup de gens. Hein? Je lui ai demandé, mais oui, mais va demander à un voleur s'il est voleur. Allez-y, mais subhanallah, plus personne n'ira en prison. Monsieur, vous êtes, c'est vous qui avez volé? Non, c'est pas moi, c'est bon, il peut sortir. C'est vous qui avez assassiné? Non, c'est pas moi, c'est bon, tu peux sortir. C'est pas comme ça. Mais subhanallah. C'est comme les politiciens. Tu tiens tes promesses? Oui, je vais les tenir. Et lui, il sait qu'à la fin, il ne va pas les tenir, les promesses. Mais c'est comme ça, c'est une spirale. C'est comme ça. Ouais, il nous avait promis. Vous savez combien de temps qu'on vous promet? Toujours. C'est une spirale. Mais ça n'existe pas. Non, en vérité, je vous ai fait des promesses, mais je vous le dis à l'avance, hein, je ne vais pas les tenir, mes promesses. Ça n'existe pas, subhanallah. Mais il y en a qui rient. Hein. Peut-être que ça fait un peu rire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens. C'est comme... Subhanallah, pour les histoires de mariage, les gens ils inventent des règles que jamais Allah n'a révélées. La muqabala, vous savez c'est quoi la muqabala? Hein, c'est la rencontre entre le prétendant et la prétendante. Ok, ça y est. Donc c'est fait pour quoi? Pour se voir. Alors on est face à des gens, ouais, qu'est-ce qu'il faut dire? T'as rien à dire. Ouais. Non, on m'a dit qu'il faut faire une liste. Il a une feuille, il a un stylo, il a tout prêt. Il a un questionnaire. On dirait un journaliste qui va rencontrer quelqu'un. Non, c'est ça, non, c'est la réalité. La réalité. Alors qu'à la base, j'y ai pas. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Il est dit que, d'où est-ce que vous avez vu qu'il est marqué comment on doit faire une muqabala? La muqabala, c'est pour voir. La seule chose qu'on ne peut pas te renseigner dessus, c'est est-ce qu'elle te plaît ou elle ne te plaît pas. Est-ce qu'il te plaît ou il ne te plaît pas? C'est la seule chose que les gens ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce qui me plaît à moi peut ne pas te plaire à toi. Et vice-versa. Ça, c'est le seul point que... Voilà. Et Allah, alhamdoulilah, Allah, dans sa hikmah, dans sa sagesse, il a fait que tout le monde trouvera son prochain. Alhamdoulilah. C'est alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, il y a un point sur lequel on ne peut pas, c'est est-ce qu'elle va te plaire, est-ce qu'elle va te plaire. Et là, c'est quoi? C'est tes yeux. Donc, il a, ça a été légiféré. Ah oui, mais comment on fait pour savoir? Comment on fait? On ne demande pas à la personne précise. On fait comme les gens à l'ancienne faisaient. Pas les gamins d'aujourd'hui, les gamineries d'aujourd'hui. Non, comme les gens d'avant, ils faisaient. Ils avaient hérité ça de leurs parents, issus de la pudeur. Très bien, tranquillement, ni vu ni connu, comme on dit. Personne n'est au courant. Le fils, il arrive, maman, la fille de telle famille, dans tel endroit, ça m'intéresse. Taïeb, tu bouges plus, toi. La maman, elle sait ce qu'elle va faire. C'est comme ça. Allah. Le papa, il sait ce qu'il va faire. Il va à la mosquée, il va rencontrer le père du garçon, il va parler avec lui. Ils vont demander à l'épicier à côté, ils vont demander à une connaissance qu'il connaît, qu'ils ont en commun. Des gens, qu'est-ce que tu sais de telle famille? Qu'est-ce que tu sais de tel enfant bien précis? Et ainsi de suite. Ils prennent des renseignements. Et les gens, à ce moment-là, ils disent la vérité. Ils sont censés dire la vérité. Ce qu'ils savent sur la personne. Et voilà. Et personne n'est au courant qu'on se renseigne sur eux. Tout le monde est tranquille. Ce n'est pas les gamineries d'aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand quelqu'un veut faire un semblant de ce que, l'exemple que je viens de vous donner, il le fait mal. Je veux te demander conseil sur telle personne. Toi, tu es honnête, tu lui dis. Il appelle la personne. Je ne me marie pas avec toi parce que j'ai appelé un tel. Il m'a dit que... Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens l'ont pris. Ils disent, bah, quoi, j'ai été franc, j'ai pas... Voilà, c'est dur. C'est dur. Voilà, c'est... Il y a de l'éducation à avoir. L'éducation à avoir. Ah ben, tu viens, toi, tu te parfumes, tu t'habilles super bien, tu te mets sur ton 31, comme ils disent, et t'arrives, elle aussi, et elle, voilà. Lui, il croit que pendant 50 ans de mariage, elle va rester comme ça. Ça n'existe pas. Ouais, mais je me suis fait avoir quand j'étais venu. Et n'importe quoi. Elle a été honnête, elle a été honnête. Mais il faut arrêter. Une fois que les barrières sont enlevées, ça y est, il y a de l'affinité qu'il y a, et ainsi de suite. Ça y est. Les gens, ils se permettent ce qu'ils ne se permettaient pas. Après, c'est la réalité de la personne et tout. De croire qu'on est sur un nuage, dans un monde de rêve, il faut arrêter. Il faut revenir là. À la raison. Khair, Inch'Allah. Ala kulli hal. Qu'Allah nous facilite à tous. On lui demande qu'il soit satisfait de nous. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Deuxième point, al-i'tisam bihablillah. De se cramponner, de se réunir sur le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Comme dans le verset coranique. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Il n'a pas dit cramponnez-vous tous et ne vous divisez pas. Réunissez-vous tous et ne vous divisez pas. Non, au câble d'Allah, à la religion d'Allah, au livre d'Allah et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'union, elle ne se fait pas de n'importe quelle manière. Ce n'est pas toute union qui est demandée. C'est la véritable union. L'union des corps et des cœurs. On parle de gens coréligionnaires. Ils sont de la même religion. Ils ont un même Seigneur. Ils ont le même livre. Ils suivent le même prophète. Ils prient dans la même direction. Subhanallah. On parle d'une communauté. D'une communauté bien précise. Donc, ce n'est pas, et comme certains ulama le précisent, ils disent, et comme le terme en plus en arabe c'est le même, ils disent la tawhida illa bit tawhid. Il ne peut y avoir d'union qu'avec le monothéisme. Et en arabe, tawhid, c'est le monothéisme, c'est le fait d'unifier, hein, et d'être unis, on dit aussi tawhid, tawhid al-umma, l'unité de la communauté, de la nation. D'accord? La tawhid illa bi kalimati tawhid. Il ne peut y avoir d'unité que sur la parole du monothéisme. Subhanallah. À moins qu'on fait croire qu'on va s'unir, mais un, il croit qu'on a le droit de donner des adorations autres que Allah, l'autre est... Comment on peut être unis si dans cette unité-là, les gens, Il y en a, ils pensent qu'il y en a qui ne sont même pas de la communauté. Et ainsi de suite. Mohammed Rasulullah, non, il y a des bid'ah hasana. Voilà. Donc, c'est, comment on peut unir ces autour du livre et de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, comme ils étaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum. C'est celle-là l'unité qui est demandée et qu'on s'efforce de l'avoir. C'est cette unité-là. D'accord ? Et ce n'est pas on vient nous faire du chantage. Oui, mais vous êtes contre l'union. De quelle union on parle ? De quelle union on parle ? On parle de l'union islamique. Qui c'est quoi l'islam ? C'est la soumission totale à Allah, tabaraka wa ta'ala, tayyib. C'est ce qu'Allah a légiféré. Qu'est-ce qu'on doit faire face à cela ? On doit l'appliquer. Tayyib, pourquoi tu ne l'appliques pas ? Il y a un problème. Subhanallah. Donc, c'est autour de la religion, autour de la vérité. La vérité n'est qu'une. La vérité n'est qu'une. Et comme Allah il a dit dans le Coran, « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Qu'y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement ? Et que dire quand ce sont des gens qui viennent jouer avec les mots ? Ils vous disent l'unité, l'unité, mais c'est pour piétiner tous les autres. Et pour gagner quelque chose et prendre le dessus. Wallahu billah. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit concernant les juifs de l'époque, il a dit tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Hein? T'as l'impression, tu crois, t'as le sentiment qu'ils sont ensemble alors que leurs cœurs sont dispersés. Alors que leurs cœurs sont dispersés. Donc, si on veut réellement l'unité, qu'on prenne le chemin réel qui mène à l'unité. Le chemin des prophètes. La voie claire, qui est claire de jour comme de nuit, sur laquelle nous a laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. قيل وقال il est dit il a dit al khawd fi al batil wa fi ma la ya'ni, c'est d'entrer dans des sujets futiles, des sujets du faux, et aussi d'entrer dans ce qui ne te regarde pas. Ça, c'est un grave problème. Les gens, ils te disent je cherche l'apaisement, mais ben prends le chemin qui emmène à l'apaisement. Et parmi les moyens, c'est de te mêler de ce qui te regarde. Quand tu vas... Rien que ce point-là. Si chacun se met à le pratiquer, ben il va voir qu'il va être privé de beaucoup de mal. Et il sera dans beaucoup de bien. Cette curiosité mal placée de vouloir être au courant de tout, tout ce qui se passe chez les gens, tout ce qu'ils disent, même les secrets entre les gens, il a envie de le savoir. C'est une envie qui le trotte. Il ne dort pas bien tant qu'il n'est pas au courant. Alors que wallahi, il y a plein de choses. De ne pas être au courant, c'est mieux pour toi. C'est une fois que tu es au courant que tu es encore plus mal. Des fois, tu te dis, mais j'aurais même pas dû écouter ça. J'aurais même pas dû entendre ça. Donc, mêle-toi de ceux qui te regardent. Et rentre dedans, hein, aussi, l'émission des gens. Un gouvernant, il a une mission. En quoi ça te regarde sa mission ? Tu n'es pas capable de gérer ton foyer, que tu es en train de parler de ce qui gère le gouvernant. Allah, il t'en a épargné de cette mission. Et tu n'arrives même pas à gérer 6-7 gosses, que tu es en train de parler de quelqu'un qui gère 50 millions de personnes. Subhanallah. Ça aussi, une des choses, c'est de rentrer dans ce qui ne te regarde pas. Mais tu te donnes raison. Tu te fais croire que tu... Non, j'ai mon droit, j'ai mon mot à dire, j'ai. Mais en vérité, tu vas dans ta perdition. Et tu laisses de côté ce qui est vraiment une priorité pour toi. Subhanallah. Et ce qui vraiment te regarde. Tu le délaisses pour des choses qui ne te regardent pas. Ce qui se passe chez les voisins, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Subhanallah. Un bon musulman, c'est quelqu'un, il a le cœur tranquille et apaisé. Dans l'islam, on t'apprend quoi? Tu vois deux personnes. Une personne, il a pris une personne. Ils se sont mis sur le côté. Ils n'ont rien dit. Leurs gestes te prouvent qu'ils ne veulent pas que tu écoutes. De par leurs gestes. Ils n'ont fait cela que parce qu'ils ne veulent pas que tu écoutes. Donc, c'est quelque chose qui est secret entre eux. Je n'ai pas. Il n'y a rien. Les gens font la guerre pour ces choses-là. Ouais, ils se sont... Il n'y a rien en vérité. C'est toi-même qui t'inventes des choses. Shaitan, il vient et t'as accepté sa venue. Et il te fait croire des choses, il t'invente des choses. Et toi, après, ça rentre. Surtout les femmes. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup d'hommes font les mêmes gestes que les femmes. Les hommes se plaignent de choses d'abord. Les hommes ne se plaignaient pas. Les paroles des gens, un homme, c'était connu auparavant, les paroles des gens, c'est rien pour lui. C'est les femmes. Il disait, c'est des histoires de femmes. Maintenant, c'est je crois qu'il n'y a plus. C'est, hein? C'est l'Ertelat qui a ramené ça. Peut-être, hein? Peut-être que c'est la mixité qui a ramené ça. C'est vrai. Ça a peut-être contribué. Les femmes, elles ont peut-être déteint sur les hommes. C'est vrai. C'est peut-être un des côtés néfastes. Bien sûr. Naam. Donc, c'est un problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bon islam de la personne de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Donc déjà, ça c'est un point, il y a plein d'autres points. Un point. Un autre point par exemple, le colportage, an-namima. Les gens ils lisent la yadkhulul jannata namam. Celui qui colporte n'entrera pas au paradis. C'est une parole qui fait peur. C'est quoi le même? Il entend, il va rapporter. Ouais, j'étais avec un tel, il a dit ça et ça et ça sur toi. Il le sait que ce sont des paroles qu'il n'aime pas. Que des paroles qui sont rabaissantes, dénigrantes, méprisantes. Mais il va lui dire quand même que cette personne ne vient pas dire qu'elle ne voulait pas le mal. C'est impossible qu'il vienne nous dire, ou alors il a vraiment un problème. Non, mais moi je voulais le bien. C'était, non, faut arrêter. En colportant ce genre de propos, tu voulais le bien? J'ai été voir le frère, Mashallah, il a dit du bien de toi. Là oui, là, on ne peut pas dire que tu voulais le mal. Là oui, là tu as rapporté un témoignage d'un frère. Au frère, tu as dit, moi j'étais qu'un tel, franchement, Mashallah, il t'estime, il a dit ça de bien. Mais je ne parle pas de ça, moi. Je parle quand tu entends du mal. Et en plus, la personne, elle tombe dans deux problèmes. Donc, il est présent et il y a de la médisance. Et là, on est dans la médisance qui est interdite. Interdite. Il parle en mal du frère. D'accord? Il parle en mal, il le méprise, il parle de ses défauts, il parle de ses péchés, il parle. D'accord? Donc, c'est de la médisance interdite. Donc lui, il y a participé. D'accord? Il a participé par son écoute. Il n'a pas fait ce que l'islam demande. Donc, il a contribué. Et la personne se permet de faire de la médisance parce qu'il a des oreilles qui écoutent. Parce que s'il n'avait pas d'oreilles qui écoutent, il arrêterait. Donc il ne l'a pas aidé pour arrêter. Ni il lui a dit, ni par ses gestes, il l'a. D'accord? Puis, ça ne s'arrête pas là, il va colporter. Celui qui reçoit, si vraiment il était quelqu'un de mûr, lui dit, Akhi, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens me pourrir le cœur contre tel frère en me rapportant ce qu'il a dit sur moi. Le frère, il est mûr. Il dit, Akhi, on a tous des défauts, on a tous des péchés, et je peux te dire que même moi, il m'arrive de parler sur les autres, qu'Allah me pardonne. Donc je ne vois pas pourquoi moi je serai à l'abri de ça. Donc on est tous pareils, qu'Allah nous pardonne. Voilà, ça c'est quelqu'un de mature. Akhi, s'il te plaît, tu ne m'amènes plus jamais ce genre de choses. Alors il lui dit, Akhi, tu cherches quoi? T'as vu qu'on était bien ensemble et t'essaies de trouver un moyen de nous séparer? Non, mais c'est pour ton bien. Non, Akhi, j'ai appris dans ma religion. Celui qui te rapporte, il rapporte aux autres. Celui qui rapporte à toi, il rapporte de toi. Ne croyez surtout pas que la personne qui vient vous voir, que vous êtes je ne sais qui pour lui. L'estime qu'il a pour un tel, c'est l'estime qu'il a pour toi. C'est la même chose. C'est une maladie. Donc si on veut vraiment aider les gens, ben, il y a un travail à faire. Tout le monde a un travail à faire. Donc déjà une personne, elle n'accepte pas. Il arrive. Si la personne, sa vie, elle est en jeu, d'accord, il a entendu quelque chose et que sa vie, elle est en jeu, là, il y a un cas, on appelle ça un cas de nécessité. Ce n'est pas le cas. Ce sont que des paroles. Hein, des paroles. Non, on ne contribue pas à ça. Donc, ton oreille, elle a entendu. Soit par ton geste. Tu n'es pas capable de parler, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Où est-ce que tu vas? Non, excusez-moi, je ne reste pas ici. Tu n'es pas capable de parler, mais je suis capable de partir. Je suis libre de mes gestes. C'est hein? Taïb. Je suis capable de parler? Eh les frères, stop, on change de sujet. Ce n'est pas bien. Là, je crois qu'on a outrepassé les limites. Là, on est entré dans quelque chose qui est interdit. Ce n'est pas bien. D'accord? Pas capable, il part. Les gens, ils vont le savoir. Ils disent, ouais, quand lui, il est là, il ne faut pas parler parce que sinon, il va s'en aller. Il ne va pas rester. Mais en réalité, non. Il faut dire la vérité, beaucoup de gens, ils trouvent plaisir. D'abord, tant que ce n'est pas eux qui sont concernés, il y en a, ça leur fait plaisir. Ils se disent, en fait, tant que les gens ils s'occupent des autres, moi, ils m'oublient. C'est comme... oui, chacun essaie de trouver une... Allah al-Musta'an, qu'Allah il nous réforme. C'est un travail, c'est un travail. Là, si chacun il met un peu du sien, on ne désespère pas, hein. Attention. Quand on parle des problèmes, moi, je suis cheminot. On ne parle pas des trains. Il y en a plein des trains qui arrivent à l'heure. Personne n'en parle. Il y a un train, il a eu 2 heures de retard. Dans les infos, ça parle. Les gens sont focalisés sur ce train qui a eu 2 heures de retard. Mais en réalité, il y en a 50 000 qui n'ont pas eu de retard. Mais c'est comme ça. Donc quand on parle des défauts ou des problèmes qu'il y a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Non, il y a plein de biens, mashallah. Alhamdulillah, quand tu vois des gens, ils ont compris le tawhid, ils ont compris qu'il faut adorer que Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne faut pas lui associer. Qui se battent pour être dans, vivre comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont les moyens de tomber dans des actions interdites, mais ils se privent. Ils se privent d'aller dans les banques pour prendre des crédits, alors qu'ils pourraient faire comme certains, avoir une villa avec piscine, voyager, et ainsi de suite. Mais non, ils se privent. Ils se contentent de ce qu'il a, alhamdulillah, bien qu'on lui met le tapis rouge, mais il n'y va pas. On peut ramener les qualités des gens, mashallah. Attention, hein. Alhamdulillah, avec tout ce qui se passe, on pousse les femmes à sortir pratiquement nues. Et la femme, elle garde son jilbab. Subhanallah. Alors qu'il y a des endroits où on pousse les gens à mettre le jilbab et les femmes, elles veulent l'enlever. Subhanallah. Enfin, il y a beaucoup de qualités. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de qualités, mais on n'est pas là pour ça. On essaie de régler ce qui ne va pas. D'accord ? Quand on parle, c'est pour trouver des solutions, tu vois, sur ce qui ne va pas. Et alhamdulillah, c'est comme ça qu'on s'améliore. Lorsqu'on diagnostique, alhamdulillah, on a déjà pris le chemin. Déjà, on a pris le chemin. On essaie de trouver qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir s'améliorer. Donc, trop parler, hein, c'est une maladie. Trop parler. Il y en a, ils pensent que on est là, il faut parler. Réfléchis avant. Regarde ce que tu vas dire. Est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce que c'est... Il n'y a rien d'interdit dedans ou pas? Et ainsi de suite. Et ça améliore les gens. طيب إضاعة المال إهماله والتفريط فيه وتعريضه للضياع c'est d'amener ses richesses ou l'argent à sa perte en le dépensant d'une mauvaise manière. المعنى الإجمالي ça aussi donc l'argent, il y en a qui disent ouais, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Un musulman ne parle pas comme ça. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux par rapport à moi, oui. Mais par rapport à ton Seigneur, tu es géré. Tu fais ce que tu veux dans ce que il est permis par Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est un point important. Allah. Ton argent, oui. Mais le donateur de l'argent, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des règles. C'est pas parce que c'est ton argent que tu as le droit de le dépenser comme tu le veux. Non. Tu le dépenses dans les choses où il n'y a pas d'interdit. المعنى الإجمالي le sens global. On va s'arrêter là inshallah parce que le sens global il est un peu long. On va laisser pour le prochain cours inshallah. Ah ouais, طيب. Mais fallait me le dire avant. C'était avant idaratul mal. Il fallait nous dire avant. Taïb, barakallahu fikoum. Juste avant de mal dépenser son argent, il y avait le point kafrat al-su'al, de trop questionner. Al-ikthar min su'al al-nas wa fard ma lam yaqa' min al-masail wal-mashakil. De trop demander, de trop poser de questions, de trop demander aux gens. C'est trop poser de questions et aussi trop demander aux gens. C'est pas bien. Hein, c'est même pour l'honneur et la dignité de la personne, faut pas trop demander aux gens. Comme on dit, il faut être un débrouillard. Tu te débrouilles tout seul. Sauf si vraiment il y a un besoin de, qu'on t'aide, taïm. Mais sinon, de trop toujours d'être à la merci des gens, de toujours d'être comme un assisté. L'assistana, c'est dangereux, l'assistana. Ça, on n'aide pas les gens. Le fait de donner de l'argent à des gens qui dorment, c'est pas une aide en vérité. On est en train de pourrir les gens. Une personne qui a pris l'habitude d'avoir de l'argent sans travailler, plus tard, il ne pourra pas travailler. Il ne pourra pas travailler. Et on en voit le résultat. On en voit le résultat. Qu'on donne de l'argent à des gens qui sont dans une situation bien précise. Encore, soit des étudiants. Ils sont en train d'étudier. On sait très bien qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils attendent d'apprendre leur diplôme. Ils ont besoin d'argent pour leur location, pour leur livre, ainsi de suite. Il y a une utilité. Une utilité. Mais des gens, non, ils font rien. Ils font rien, ils touchent 400 euros. Et s'ils se contentent de ça, bah c'est foutu. C'est foutu. Va lui demander de travailler, lui. Subhanallah. Va lui demander de travailler. Subhanallah. Et donc, non. Il faut s'éloigner. Même, par exemple, ici en France, avant c'était le RMI, maintenant c'est le RSA. Le RSA, ça fait quoi? Ça fait une trentaine d'années que ça existe. Hein. Ça n'existait pas avant. Dans les années 60, 70, ça n'existait pas, le RMI. Il n'y avait pas. C'est Mitterrand qui a ramené ça, dans les années 80. Donc, les gens avant, ils vivaient. 80, ça arrivait, top, le RMI. Les gens, ils ont applaudi Mitterrand, le RMI, ils sont contents. Mais ce n'est pas une vie. Un musulman, il ne se contente pas de ça. Si vraiment quelqu'un, il est dans la nécessité, il en a besoin pendant une période, soit. Mais de vivre avec ça, ce n'est pas une vie. Le RMI, le RSA, c'est l'équivalent de la mendicité. C'est l'équivalent de la mendicité. C'est une manière moderne de faire la mendicité. Ouais, j'ai pas d'argent, je suis dans le besoin, je vais faire un dossier. Et là où il n'y a pas de dossier à faire, ben la personne attend sa main. Voilà. C'est la même chose. Le musulman, il est fier. Il est fier. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, quand la question avait été posée, il a dit, ne le prend que celui qui est vraiment dans la nécessité. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, a dit, c'est interdit. Il a dit déjà, premièrement, parce qu'il ne faut pas être assisté. Et deuxièmement, qu'un mécréant, sa main soit au-dessus de la main du croyant, ça ne convient pas. C'est-à-dire que t'es comme ça, t'es affaibli, t'es humilié. T'es humilié comme ça, en tendant ta main devant le mécréant. Ça ne convient pas. Le musulman, il a quand même... hein, sa dignité. Subhanallah. Allah, il t'a donné la santé, il t'a donné des bras. Pourquoi tu fais l'handicapé? Subhanallah. Il y a des handicapés, ils travaillent. Ils demandent des droits, ils demandent qu'on leur donne, qu'on leur facilite d'aller au travail. Wallahi, des fois, il y a de quoi se poser des questions quand même. Subhanallah. Mais c'est comme dans les ibadas. Cheikh Abdel Razzaq Al-Abbad, hafidhahullah, il dit, il raconte une histoire dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que les gens ils étaient fatigués pour la prière de Tarawih. Ils voient un homme, toute la prière de Tarawih, il y en a, ils veulent prier assis, un homme, il n'a qu'une jambe. Toute la prière de Tarawih, il l'a fait debout. C'est impressionnant. C'est vrai, des fois, il y a des scènes, ça te fait réfléchir. Tu dis Allahu Akbar, tu dis Subhanallah, comment ça? Lui qui est plus en droit de se plaindre, il accepte. C'est clair que Allah il facilite à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pour dire, il faut œuvrer, il faut chercher. Allah, le boulot, il y en a du boulot. À chacun de chercher. C'est pas à moi d'aller chercher pour toi, ni à toi de chercher pour moi. Chacun cherche. Il y en a, ils viennent te voir, ils veulent que tu fasses toutes tes démarches à leur place. Non. C'est toi qui te connais. Tu sais où est-ce qu'elles sont tes facilités, qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est à toi. Alhamdulillah. Et dans le domaine de la dunya, innove. Innove, cherche, innove, tant qu'il n'y a pas d'interdit dedans. Subhanallah. Et c'est mieux de faire quelque chose qui te plaît. Parce que dans ce qui te plaît, tu vas exceller dedans. Mashallah. Et il est demandé d'être excellent dans son travail. Donc il faut chercher. Il faut arrêter d'être défaitiste, pessimiste. Non, mais c'est mort, il n'y a plus rien. Ça, c'est, non, un musulman, il ne parle pas ce langage-là. Ça, c'est le langage des pauvres, les gens qui sont perdus dans la nature. Ils n'ont pas de religion, ils n'ont rien, ils sont perdus dans la nature. Lui, qu'est-ce qu'il sait, c'est d'attendre que le café il ouvre, il prend son petit café, puis il a son parisien derrière sa poche. Meskine, il est perdu. Il ne sait pas. Je peux comprendre ça. Mais un musulman, non. Mais non. Le musulman, il a son espoir. Il espère en son Seigneur. Il sait que le donateur, c'est Allah. Il sait que le reste, il est auprès d'Allah. Moi, il m'est demandé seulement de me lever tôt le matin et d'aller bouger. Inch'Allah. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Voilà. C'est ça le musulman. Le musulman, il est comme ça. Et puis, alhamdoulilah, j'ai tapé une porte, ils ne m'ont pas accepté. C'est qu'il y a un khair pour moi. Peut-être qu'il y avait un mal qui m'attendait dedans. C'est de prendre le bon côté des choses. Hein, subhanallah, ça c'est le bon musulman. Alhamdoulilah. Pourquoi quand tu fais l'istikhara, il y en a, ils font. Quand tu fais l'istikhara, t'es tranquille. Hein, j'ai un entretien, j'ai quelque chose à faire, j'ai un mariage, je dois m'associer à quelqu'un, je veux ouvrir une boîte, je veux. Je fais l'istikhara. Dans l'istikhara, je m'attends à deux réponses, positives ou négatives. Mais dans les deux cas, je me suis préparé. Parce que j'ai demandé à Allah le bien qu'il y ait dans l'une des deux solutions. Oh Allah, s'il y a un bien dedans, facilite-le-moi. Oh Allah, s'il y a un mal dedans, éloigne-le de moi. Donc si Allah te l'éloigne, ne sois pas déçu. Subhanallah. Tu as fait l'istikhara, tu as consulté ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et la consultation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'enseignait aux compagnons comme il leur enseignait les sourates du Coran. Subhanallah. Donc c'était quelque chose de très répandu, de connu. Donc, voilà. Donc le musulman, non. Le musulman, il a un besoin. C'est un moment précis, c'est pas une habitude. Et puis après, voilà, il se renseigne et ainsi de suite, il essaye de faire. Mais aussi, dans notre problème, des gens, ils se focalisent sur un travail précis. Après, ils disent, ouais, les portes, elles sont fermées. Non, si tu as une préférence pour un métier, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de facilité dans celui-là, fais autre chose. C'est mieux de prendre un balai, d'aller balayer, bien nettoyer tout ça, t'as gagné ton argent, la sueur de ton front, que d'attendre de l'argent qu'on te le donne. C'est une sadaqa qu'on te fait. Que là, t'entends dans ta main. C'est pas bon. Et que dire quand les gens, en plus de ça, ça c'est un autre problème. Les gens, ils mentent dans les déclarations. Ça, c'est un autre problème, ça. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas menti dans les déclarations. Enfin, d'accord. Et c'est pas avec tout ce que l'on vient de dire. Mais alors, si jamais se rajoute à ça des mensonges et tout ça, parce que les gens, Allah musta'an, la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est pour ça qu'Allah il nous recommande la crainte d'Allah et la piété envers Allah. C'est ce qui va nous aider à bien vivre et à faire attention. Et on doit craindre Allah là où qu'on soit. C'est pas, non, mais c'est bon, il n'y a personne. T'as oublié ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah, tu n'échapperas jamais à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc au moment que tu vas signer un papier, Allah il te voit. Au moment où tu remplis un papier, Allah, il te voit. Au moment où tu parles, on te demande de faire une déclaration verbale, Allah, il te voit, il t'entend. Tu n'échapperas jamais à Allah, subhanahu wa ta'ala. Sois véridique. Tu ne seras jamais perdant. Tout le temps véridique. Quelqu'un de véridique. Tout le temps. Toute ta vie, tu es quelqu'un de véridique. Je parle avec vérité. Yahri, j'ai pas le droit à telle chose, j'en veux pas. Tenez vos documents. Non, j'ai pas le droit. J'ai lu là, vu les clauses, non, je ne suis pas dedans. Voilà, ça c'est un bon musulman. Et c'est une da'wa. Il y a des gens, aujourd'hui tellement qu'il y a, astaghfirullah al-azim, des gens mauvais, que quand quelqu'un il est droit, en face de toi, les gens sont étonnés. Voilà. T'es au magasin à la caisse, on te donne plus que la monnaie qu'il te faut. Non, excusez-moi, la meuf donnait trop. T'as plein de gens qui te regardent. Ben oui. Moi, j'ai rien demandé, on m'a donné, hein, c'est bon. Non, pourquoi? Parce que c'était un croyant. Ma poche n'entre dedans que ce qui est halal. Ce que moi, j'ai fait sans faire exprès, on m'a rendu de la monnaie, j'ai pas regardé. Je l'ai pas fait exprès. Mais volontairement, non. Volontairement de ma part, non. Le musulman, ça doit être un exemple. Un exemple. C'est bien beau de parler, mais si les comportements et le relationnel, il est tout autre, les gens, ils n'écouteront pas. Donc, il faut qu'on soit des gens attirants. On attire les gens. Les gens, ils ont une envie. Ils ont envie de, d'entrer dans cette religion. Ça leur plaît. Parce qu'ils voient des gens en face d'eux, ils voient des exemples. Ben, des gens qui vivent bien leur religion. Ça, c'est important. Donc, Allah nous facilite à tous. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil
alamin.
Ah oui, allez, Khalid, salam, salam,
salam. Parce que j'ai oublié de te dire.
Oui, tu lui passeras un grand salam de ma part.
Non, pas de soucis.